Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue sur le podcast Summer Talk avec Rouliette. Installez-vous confortablement ou au contraire, partez pour une petite marche, c'est parti. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour un épisode spécial. Pourquoi spécial ? Parce qu'en fait, je vais répondre directement aujourd'hui à une proposition de l'un ou de l'une d'entre vous. Sur mon compte Instagram, donc dédié au podcast, que je vous invite à suivre si vous voulez suivre les petits updates, actualités, etc., qui sera en bio, je vous ai mis en story hier, je vous ai demandé en fait de me donner un sujet précis en story que vous aimeriez que j'aborde en podcast et auquel j'allais répondre directement aujourd'hui dans cet épisode. En général, je vous demande toujours quel sujet vous aimeriez que j'aborde pour ensuite moi construire les miens, mais là aujourd'hui je vais répondre littéralement à une proposition de l'un ou de l'une d'entre vous. Sans ménager plus le suspense, aujourd'hui je réponds à la question, enfin à la proposition plutôt de Camille, qui est de parler en fait de la peur de rater sa vie et de l'obsession de toujours vouloir faire ou ressentir mieux les choses. J'ai trouvé cette proposition hyper intéressante parce que littéralement je comptais en faire un épisode, je ne sais pas encore quand, mais je comptais le faire parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup traversé l'esprit ces derniers temps et que j'avais envie d'approfondir, de débattre, de partager avec vous, de partager mes émotions à ce sujet. La peur de rater sa vie et cette obsession de faire plus, de faire mieux, de faire de grandes choses, je pense qu'elle est centrale. Elle a toujours été plus ou moins dans la tête des hommes. Quand je dis homme, c'est humain, hein, petit H, on va dire. Grand H du coup. La fille qui veut partir en mode je connais le français, pas tellement. Tout ça pour dire, revenons à nos moutons, cette peur, je pense qu'elle a toujours fait partie de nous et que c'est pour cette raison que, par exemple, il y a toujours eu de grandes œuvres d'art qui ont été créées, il y a des gens qui se sont penchés sur de la philosophie, sur établir des grands théorèmes, comprendre le monde, parce que voilà, il y avait une question de ne pas vouloir passer, je pense, à côté de son existence, de se dire j'en ai fait quelque chose, je n'ai pas juste suivi la vie, subi la vie, mais je me la suis accaparée et j'en ai fait quelque chose qui me ressemblait, qui m'a fait me développer, qui m'a fait me construire, m'épanouir, voilà, où je suis arrivée à un point B, à la fin de ma vie, qui était différent du point A de base. Et si je pense que c'est intrinsèque en nous, parce que les êtres humains, on a cette capacité de conscience, cette capacité de réflexion, qui va être, on va dire, basée sur nos sentiments, mais pas que, qui va être basée sur d'autres choses, voilà, parce qu'on a tout ça, on a cette envie de faire des choses, de faire des grandes choses. Et ces grandes choses, ça peut s'entendre sur créer une famille, fonder une famille, ça peut être se réaliser professionnellement, trouver une passion, atteindre un certain niveau de sagesse, de maturité. Voilà, il y a plein de pans sur lesquels on peut faire des grandes choses. Les grandes choses, c'est pas juste devenir président de la République ou créer la théorie de la relativité, par exemple, mais ça peut être des grandes choses à l'échelle humaine. Et je pense que si cette pensée, en fait, elle est aussi ancrée en nous et naturelle, parfois, elle peut nous faire beaucoup plus de mal qu'autre chose. J'ai lu récemment, comme je vous en ai parlé, un ouvrage qui s'appelle « L'art subtil de s'en foutre » de Mark Manson. Et c'est un ouvrage qui, personnellement, m'a beaucoup touchée parce qu'il parle de sa quête du bonheur, de sa quête de la réalisation et ce par quoi, en fait, il passe, ce qu'il a dû déconstruire pour y arriver. Et ce que j'ai apprécié dans ce livre, qui est clairement un livre de développement personnel, mais dont la première ligne, c'est un livre de développement personnel fait pour les personnes qui n'aiment pas les livres de développement personnel, je trouve que c'est un ouvrage qui a permis de déconstruire de manière extrêmement saine, humaine, authentique et intéressante plein de schémas, de moyens sociétaux qu'on aurait d'accéder au bonheur, qui ne sont pas forcément les bons, qui ne sont pas forcément les plus adaptés, les plus judicieux. Sur les réseaux sociaux, vous savez que c'est mon point noir, mais je pense qu'en même temps, on a aucun autre moyen de communication qui est autant au cœur de notre quotidien que celui-ci. Et je suis extrêmement admirative des personnes pour qui ce n'est pas le cas. Mais voilà, on voit des gens faire des choses extraordinaires, avoir de grandes passions, avoir de grands rêves, avoir de beaux métiers, en soi, faire quelque chose de leur vie. Et je pense que moi, je m'y suis beaucoup perdue à un moment, de cette quête voilà, de toujours vouloir faire plus, de toujours vouloir faire mieux, d'avoir un sens derrière chacune de mes actions. Au point où ça m'a rendue malheureuse de constater que c'était pas le cas dans ma vie, au quotidien. Parce qu'il faut pas l'oublier, ce qu'on voit à la télé, sur les réseaux sociaux, dans les livres, bon là il s'agit carrément de fiction, dans les films c'est pareil, etc. Mais on voit que des moments sporadiques, des moments extrêmement restreint parmi le quotidien en fait que nous traversons tous. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand je vous montre, hier par exemple, j'ai publié un réel où je faisais mon lit. Ok, je faisais mon lit, c'est un moment, on va dire, isolé de toute ma journée. Vous voyez? Mais si vous voyez que moi en train de faire mon lit et danser parce que ha, c'est trop fun de faire son lit, vous pouvez vous dire, ah oh, mais ouais, elle au moins elle a fait son lit alors que moi j'ai rien fait aujourd'hui. Là, je prends une action simple. Vous allez vous dire, mais Juliette, quand on parle de faire des grandes choses, on parle pas de faire de son lit. Enfin, de faire son lit. Alors que déjà, calmons-nous, parce que je trouve que faire son lit, c'est une grande chose. Hein. Moi, c'est vraiment une préparation mentale de le faire, d'accord? Une fois par mois, c'est une préparation mentale de faire mon lit. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que on peut se perdre dans ces moments éphémères que les personnes nous transmettent, et surtout dans ces moments isolés que les personnes nous transmettent. Même quand il s'agit d'un voyage qu'on voit en à peine quelques secondes dans un réel Instagram de quelqu'un qui prend l'avion et puis voilà qui part dans une destination idyllique ou non, hein, juste la notion de voyage aspire à beaucoup plus que juste la destination en soi. Ce qu'on voit pas en fait dans ce réel-là de quelques secondes, c'est toute la préparation que ça a demandé à la personne, toutes les abnégations que ça a demandé à la personne, comment elle a budgétisé, comment elle a... Elle s'est peut-être privée ou pas, mais comment elle s'est peut-être privée pendant un mois, deux mois, un an, deux ans, que sais-je, avant pour faire ce voyage. Comment elle a dû refuser peut-être des opportunités ou en accepter qui faisaient extrêmement peur pour faire ce voyage. Voilà, on a que ce résultat final qui est extrêmement, on va dire, j'ai pas envie de dire dénué de sens, mais extrêmement vide par rapport à tout ce qu'il a construit. Et c'est pour ça que à l'heure actuelle, je pense qu'il y a vraiment un créneau à prendre et un recul à prendre sur les réseaux, c'est vraiment de comprendre que ce que vous voyez, comme on l'a toujours répété, ne représente pas une réalité objective et ne doit pas représenter, quelque part, un objectif à atteindre ou, on va dire, une incitation pour vous de vous dire « Ah, mais moi aussi, il faut que je fasse des voyages. Moi aussi, il faut que j'ai un groupe de potes avec qui je peux faire ces soirées qui ont l'air trop bien dans les stories, etc. » Parce que c'est ce que je vois toujours autour de moi et je dois le faire. Parce que c'est bizarre, pourquoi j'aurais pas envie, comme les autres, de faire plein de choses? Est-ce que ça veut dire que je m'en fiche de tout? Est-ce que ça veut dire que ma vie, elle est vraiment chiante à ce point? Est-ce que ça veut dire que j'ai pas d'ambition? Est-ce que ça veut dire que c'est un problème de pas avoir d'ambition? Ça veut dire que je suis boring, je suis ennuyeux? Qu'est-ce que ça signifie? Et je pense que s'il est intéressant parfois de se poser des questions, on va dire, qui s'approchent de celles-ci, parce que ça va vous permettre de changer des choses dans votre vie, de vous stimuler, de sortir de votre zone de confort. Et ça, je pense que c'est essentiel de parfois tenter des choses inconnues, des choses qui nous font peur au premier abord, mais qui vont nous apporter un millier de choses différentes qu'on n'imagine même pas. Si ça, je pense que c'est important, je pense que c'est pas toujours nécessaire. Vous voyez, on a fait de la vie quelque chose d'extrêmement précieux, ce qui est le cas. Et surtout quelque chose du coup qu'on doit rentabiliser tout le temps, à chaque moment, à chaque instant, à chaque seconde. On doit rentabiliser notre vie, ce qu'elle vaut, et encore plus si on manque de rien. T'es là, t'as deux bras, t'as deux jambes, t'as un corps qui fonctionne, un cerveau qui marche, t'es pas criblé sous les dettes, et pourtant tu fais rien, alors qu'il y a des personnes qui juste avec une bonne santé, m'effraient tellement de choses. Et on commence même à développer du coup une certaine culpabilité de ne pas avoir autant d'aspirations, de ne pas avoir de rêves particuliers ou de ne pas les mettre en place. On a l'impression d'être sur la touche, mais de s'y être mis nous-mêmes. Et je pense que moi, quelque chose qui m'a beaucoup, on va dire, confortée dans ce mal-être que j'ai pu ressentir jusqu'à il y a très peu, c'était l'injonction de cette traîne des réseaux sociaux que j'ai rejoint pendant longtemps, qui était de romantiser sa vie. La question de faire de chaque instant un instant merveilleux. Et si je pense que le fond est intéressant, voilà, de se dire, c'est les moments banals du quotidien, banals, c'est ces moments simples du quotidien qu'il faut apprécier, parce qu'en fait, c'est ça la vie. La vie, c'est pas du strass et des paillettes, c'est pas des, voilà, j'en prends ces exemples, des voyages à tout va, des sorties tout le temps avec les copains, avec les amoureux, les amoureuses, la famille, que sais-je. La vie, c'est aller au travail le matin, ou à l'école, ou que sais-je. C'est en revenir, manger, refaire la même journée le lendemain. Et cette routine-là, elle n'est pas nécessairement néfaste. Elle n'est pas nécessairement emprisonnante, si je puis dire. On a fait de la routine quelque chose d'extrêmement, comment dire, controversé serait un grand mot, mais de quelque chose de très mauvais. Mais la routine, sous tous ses aspects, la routine dans les relations humaines, la routine dans notre propre vie, on en a fait quelque chose de boring, quoi, de de chiant de plat. Et je pense qu'il y a une grande méprise à ce sujet. C'est que la routine n'a pas... Enfin, la routine n'est pas nécessairement ennuyeuse. La seule routine ennuyeuse, c'est la routine qui ne vous correspond plus. La routine dans laquelle vous êtes malheureux, malheureuse. Mais voilà, encore une fois, avec cet aspect de « on doit toujours tout romantiser, on doit saisir chaque seconde comme étant extraordinaire », on a créé malgré nous cette envie de, du coup, de trouver toujours plus derrière un geste, un moment de notre journée qui est pour autant insignifiant à la base. Insignifiant dans le sens, peut-être pas le bon mot, mais banal. Et si je trouve que c'est cool, vous voyez, de rendre la beauté aux choses simples du quotidien, je trouve que ça a transformé un côté nocif dans notre vie de manière générale. Du coup, de toujours chercher la beauté, de toujours chercher l'intrigant, de toujours chercher le truc qui fera que notre journée est exceptionnelle. Et que du coup, bah, parfois, soit on l'a pas et du coup on se couche, on est hyper déçu, on se dit putain mais il m'est rien arrivé de fou dans ma vie, rien que j'ai à romantiser parce que ouais je suis désolée mais ma journée de cours elle était juste chiante à mourir, mon travail aujourd'hui ça s'est pas bien passé. Vous voyez, c'est ce carcan-là qui fait que je pense déjà de un, on peut se coucher le soir en étant pas bien dans notre tête, et de deux, c'est que parfois chercher à romantiser tout ce que l'on vit, ça fait perdre justement cette nature, on va dire, plus spontané, plus naturel que les moments symbolisent, tout simplement. Parce qu'en plus, genre quand vous voyez une fille qui dit, ou un mec, hein, je m'en fous, ouais, romantisons notre journée. Aujourd'hui, par exemple, j'ai été boire un super café et c'était super simple, mais c'était super beau. Ouais, mais dans la vidéo, le café que la personne boit, elle est à New York, en fait, elle est dans un super café. Enfin, tu romantises pas quelque chose de banal, t'es dans un endroit qui n'est absolument pas... Genre, t'es dans un endroit fou, t'es pas en train de boire un expresso nul, goût chaussette serrée. Là, t'es en train de boire un nice latte americano pumpkin spice supplément speculoos avec de la crème fouettée. Genre, je suis navrée, tu romantises pas quelque chose de banal, tu romantises quelque chose qui n'est pas accessible pour la plus grande majorité de la planète. Et le truc, c'est que du coup, nous, on suit ce côté de « ouais, moi aussi, je romantise ». Mais waouh, ça donne tellement pas le même rendu. Parce que moi, en fait, je suis en train de boire un café soluble dans ma machine, dans une tasse, bah c'est pas la plus belle, mais c'est la seule qui me reste parce que les autres, elles sont au lave-vaisselle ou tout simplement dans l'évier. Et du coup, on culpabilise, on se dit « mais attends, et pourquoi ça rend trop bien chez elle ?» Et moi, à ce point, nul chez moi. Mais c'est tout simplement parce que déjà... On peut pas romantiser, enfin, on peut pas avoir la même échelle de romantisation de vie qui sont drastiquement différentes. Moi, par exemple, je sais que je vis dans un appart qui est hyper beau. Genre, ouais, je vis dans un appart qui. Non mais vous voyez ce que je veux dire. Je sais que mon appart ne représente aucunement la majorité des apparts dans lesquels les gens de mon âge vivent. J'ai la chance, voilà, d'avoir eu ce plan-là. Mais ce que je veux dire, c'est que mon appart, il est superbe. Et quand je fais des vidéos de cuisine dedans, par exemple, le rendu que ça donne à l'image, etc. C'est pas le même rendu que un tel ou une telle pourrait avoir dans son appart étudiant, par exemple, ou pas, dans son appart familial, parce que ben, les gens n'ont pas les mêmes moyens, les gens n'ont pas eu les mêmes plans, les mêmes chances d'avoir voilà, tel appart ou tel appart. Et du coup, moi, je me suis dit, mais en fait, ce qui me gênerait, c'est que moi, je partage ce qui fait partie de mon quotidien et les beaux moments que je vis dedans, mais j'aimerais pas que ça contrarie, c'est peut-être un grand mot, mais que ça fasse du mal, sans que je le veuille, de personnes qui viendraient à comparer, qui viendraient à se dire « Waouh, mais son appart, il est trop beau, alors qu'en fait, le mien, ben, j'ai même pas de cuisine en fait, chez moi. Genre, c'est juste une pièce et c'est tout. » Et là, vous êtes sûrement en train de vous dire « Mais pourquoi tu nous parles de ton plan de cuisine, Juliette ?» Genre, le sujet du jour, c'était la peur de rater sa vie et l'obsession de vouloir faire mieux, de vouloir ressentir mieux, etc. J'y viens. C'est que posé dans mon appartement, il y a donc 2 mois, là, quand j'étais en pleine crise existentielle de ma vie, justement, de « mais qu'est-ce que je fais ?»« Mais les choses que j'aime, je les fais pas à fond. »« Mais est-ce qu'au final, du coup, ça veut dire que c'est vraiment des choses que j'aime ?» À un point où mon appart, je le fuyais. J'étais tout le temps en vadrouille, ou dès que j'étais à Bordeaux, j'étais dans des cafés, j'étais plus chez moi. J'en suis venue à un point où même l'appart qui est incroyable en soi, je voyais tellement mieux à travers les réseaux sociaux, les films, les ce que vous voulez, que je l'avais oublié. Que j'avais oublié en fait son plein potentiel. Et son plein potentiel, c'est pas de le romantiser en mode à chaque fois je vois mon plan de travail, je suis en mode waouh, so fancy. Non, c'est de moi m'y sentir bien dans la structure en fait que l'appart représente. Et du coup, je me suis, entre guillemets, forcée à ne plus chercher la surstimulation de rendre ma vie plus belle, plus esthétique, plus ci, plus ça, en allant à des cafés H24, en allant au ciné H24, en essayant de sortir, etc., pour me dire, ok, j'ai fait quelque chose de ma journée, je poursuis quelque chose, je m'enrichis culturellement, je m'enrichis de nouveaux goûts, j'ai bu des super trucs, j'ai mangé des super trucs. Non, je me suis dit, je vais me poser dans l'appart. Et je ne vais pas chercher à trouver ça beau, je vais chercher tout simplement à m'y sentir ancrée. Et quand on parle de la peur, voilà, de pas réussir à, enfin, de l'obsession à vouloir toujours ressentir plus, toujours ressentir mieux, moi, le premier conseil que j'aurais à vous dire, c'est que je ne me suis jamais sentie aussi bien dans mes pompes, dans mes basketos. Je me suis jamais sentie aussi bien dans ma vie, confortable, épanouie, que depuis que justement, je ne cherche plus cet Everest de sensations. Depuis que je ne cherche plus le beau impérativement partout. Je me satisfais de ce que je ressens et de ce que je ressens en termes de sens. Vous voyez ce que je veux dire? Genre les cinq sens, la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat, le goût, c'est ça qui me... Et je les enchaînais super vite alors qu'en vrai, je me suis dit, si t'en loupes un, ma fille, ou si t'en as pas un en tête, ça va faire con. Bref, je me suis dit... C'est la chose la plus sensée, c'est la chose la plus innée que j'ai en moi, c'est la chose la plus authentique que j'ai en moi. On ne peut pas tromper Louis. Vous voyez ce que je veux dire? Si t'entends un truc, t'entends un truc. Enfin oui, en soi, les gens vont dire « Mais si, tu peux tromper Louis, tu peux entendre quelque chose et en fait, c'était pas ça la vraie chose. » Mais ce que... j'ai mis trop mal les gens. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas tromper ses sens primaires. Quand je goûte quelque chose et que c'est amer, je sais que c'est amer. Quand je sens quelque chose qui sent le pourri, ça sent le pourri. Et j'essaie de me focus sur ça, et pas sur cette quête de toujours aller dans mon cerveau chercher une représentation, une signification, une symbolique, des sensations derrière ce qui est fondamentalement. On s'échappe très souvent dans nos pensées, et si vous êtes un overthinker comme moi, j'ai des mots bannis, I'm an overthinker. Si vous êtes quelqu'un qui pense, qui réfléchit toujours beaucoup à tout, il ne faut pas vous y méprendre, ça peut vous faire plus de mal, parce que à vouloir chercher la quête du sens, on oublie ce qu'on a tous les jours et qui se suffisent à eux-mêmes. Moi, quand j'étais posée dans mon appart, je me disais pas « Ouais, alors là, la lumière du jour, ça rendrait trop bien sur une photo, et puis en fait, ouais, c'est trop stylé parce que le coucher de soleil, c'est la vie qui s'éteint, puis qui reprend le lendemain. » Non, j'étais juste dans mon salon, j'étais allongée par terre, et je me suis juste dit « Ouais, le soleil, c'est trop bien comme invention, parce que là, je suis par terre, et c'est en train de réchauffer tout mon corps. C'est en train de me réchauffer jusqu'aux os. » Et je me focussais juste sur ça, juste de me dire « Là, je suis par terre, c'est trop bien, parce que je suis chaud, j'ai l'impression d'être dans un petit cocon, là, comme ça. » Et je vais pas penser plus que ça. Quand je lisais ce qu'on me racontait. J'étais pas en train de me dire, ouais, ok, c'est bien, t'es en train de lire un livre, t'es en train de te cultiver, ça ajoute quelque chose à ta culture, tu pourras en parler avec quelqu'un, tu pourras échanger avec quelqu'un, voilà, toi tu restes pas sur tes appuis. Non. Ce que je prenais, c'était de juste complètement, m'immerger, immersed, vous voyez ce que je veux dire? Faut que j'arrête de faire la passerelle en anglais, c'est insupportable. J'étais juste contente de me plonger dans l'histoire, fictive ou pas, de quelqu'un d'autre, et de ne pas faire le point, en fait, enfin le parallèle sur ma vie à moi, sur mes pensées à moi. Bien sûr, parfois, il y a des livres qui nous le provoquent, et c'est trop cool, mais quand c'est spontané, encore une fois, c'est sympa. Mais sinon, genre, j'étais juste contente de me laisser percer, de me laisser transporter. Et je pense que cette quête, cette peur qu'on a de rater sa vie, cette obsession de toujours vouloir faire mieux, de toujours vouloir faire plus, elle passe à côté de ces choses essentielles. Elle passe à côté du fait de se laisser porter par la vie. Et je le dis toujours, il y a une grande différence entre se laisser porter par la vie et subir la vie. Et là, en l'occurrence, se laisser transporter par la vie, c'est être à l'écoute de celle-ci, être à l'écoute de ses sens, être à l'écoute de ce qui est tangible, de ce qui est face à nous. Ce qui n'empêche pas, parfois, de se poser des questions. Voilà, je vous dis pas juste maintenant appréciez ce que vous mangez, appréciez ce que vous entendez, enfin appréciez en mode de analyser, focussez-vous juste sur ça. Non, parfois c'est cool d'avoir des grandes discussions, d'aller loin, de chercher plus. Sinon, il n'y aurait jamais eu de philosophie, il n'y aurait jamais eu beaucoup de choses dans la vie de manière générale en termes de divertissement et d'apport culturel. Mais je vous dis, par parcimonie, parcimoniquement, vous voyez ce que je veux dire? C'est important de se rendre compte qu'on n'a pas peur de rater sa vie quand on commence à l'apprécier à sa juste valeur, quand on commence à écouter, voilà, j'allais dire, quand on commence à écouter notre vie, on ne peut pas passer à côté, on ne peut pas la rater. Et cette projection de toujours vouloir faire mieux, de toujours vouloir faire plus. De dire, ouais, là j'ai fait ça, mais je pourrais faire mieux. Là j'ai fait ci, mais je pourrais faire mieux. Là je serai heureux, heureuse, quand j'aurai fait ci, quand j'aurai fait ça. C'est en pensant comme ça que vous allez rater votre vie. Parce qu'en fait, en ne prenant pas en compte ce que vous avez déjà fait jusque-là, rien que du fait, genre, soyons honnêtes, hein. Honnêtement, rien que le fait est d'être en vie à l'heure actuelle, par rapport à toutes les charges mentales qui peuvent exister, par rapport à tout ce que nous avons traversé, par rapport aux catastrophes de guerre, d'écologie, que sais-je, c'est extraordinaire, rien que ça. Sauf qu'on est tellement omnibulé par tout ce que les gens font d'extraordinaire à côté de nous, en face de nous, à travers un téléphone de manière perpétuelle, qu'on a l'impression que nous, on fait jamais assez. Vous voyez ce que je veux dire? Quand j'avais fini mon master de droit, et que les gens me disaient « Ouais, et tout, machin, c'est quoi tes études ?» Quand j'ai rencontré, j'ai dit « Ouais, et tout, je finis un master de droit. » Les gens, ils étaient en mode « Waouh, mais c'est fou, mais c'est malade bon, !» Non, en vrai, je ne surexagère pas. Il y avait vraiment des personnes qui avaient ce genre de réaction. Et moi, j'étais en mode « Ouais, enfin, je sais pas, j'ai fait des études, enfin, j'ai pas accompli un grand truc, j'ai pas sorti une thèse, j'ai pas fait... Mais vous voyez, c'est parce que on voit toujours tellement plus ce qu'on pourrait faire de mieux qu'on ne voit pas ce que l'on a déjà fait d'incroyable. Et là, je m'en fous, hein, que ce soit des études de droit. Je parle pas d'études comme étant un Everest incroyable. Mais juste, je n'ai pas réfléchi 2 secondes à tout ce que j'avais fait, à tout ce que j'avais appris, à toutes les connaissances, que ce soit des connaissances de vie, hein, plus que des connaissances théoriques que j'avais accumulées, que j'avais développées. Et ça, c'est à remarquer dans tous vos pans de vie. De regarder voilà, les amitiés que vous avez bâties depuis des années, ou alors votre capacité à avoir su faire le tri, ou alors si vous n'avez pas d'amis, votre volonté à vous dire « j'aspire néanmoins à en avoir au moins une, au moins un qui me correspondrait ». C'est qu'on censure trop, on ne se rend plus assez compte de tout le chemin que nous faisons en termes de choses concrètes, voilà, de construction d'amitié, ou je sais pas moi, de maison, littéralement, ou même plus de passion, d'objectifs, on va dire, professionnels dans le court terme, etc. On se rend même pas compte de tout ce que l'on a fait, de tout ce que l'on a conscientisé, parce que la conscientisation des choses, c'est aussi hein, du travail, c'est aussi quelque chose à réaliser, c'est aussi le fruit, à la fin, de votre conscience, tout simplement, de votre travail interne. Et ça, on l'occulte. Parce que les seules choses qui importent, c'est « Ouais, mais je suis pas allée à Bali. » Bah ouais. « Non, mais je suis pas en couple depuis 2 ans. » Bah ouais. « Non, mais j'ai pas cette nouvelle montre que tout le monde a. » Bah ouais. « Non, j'ai pas de passion qui ferait de moi quelqu'un de différent. » Bah ouais. « Non, je peux pas faire ça trop longtemps non plus. » On voit que des fruits de... On va dire des résultats. Quand je dis fruits, c'est plus en termes de résultats. On aspire qu'aux fruits, en fait, qu'on n'a pas. Et je pense que c'est ça qui nous rend malheureux. Et c'est ça qui fait qu'on tourne à l'obsession. Parce que c'est un cercle vicieux. Parce qu'au lieu de se poser 2 secondes et de dire « Waouh, attends, là je vais déconstruire tout ce que je suis en train de penser parce que c'est en train de me rendre malheureux as fuck et insatisfait surtout. » Ça me rend insatisfait parce qu'il n'y a pas un jour qui passe sans que je me dise « J'aurais dû faire plus de choses. Ah, cette semaine j'aurais dû faire plus de choses. Ah, je ne me suis pas donné à fond. » Ça demande du courage de se dire « Waouh, je vais prendre du recul sur la chose et je vais essayer d'appréhender ce qui se passe devant moi, ce qui s'est passé avant, ce qui se passera plus tard différemment. » Et moi, la seule chose qui compte à l'heure actuelle, que j'ai intégrée, c'est de me dire, ma fille, tu seras jamais différente. Tu seras jamais le génie de ta génération. Tu seras jamais la réalisatrice de films de ta génération. Tu seras jamais l'actrice de ta génération. Il y en a déjà, et honnêtement, je leur laisse, quand on voit en plus la pression que ça représente pour eux. Je me suis dit ça. Je me suis dit, est-ce que c'est une tare? Est-ce que ça veut dire que ta vie, tu passes à côté? Est-ce que ça veut dire que ta vie aura été dénuée de sens? Est-ce que ça veut dire que tu te reposes sur tes acquis, que t'es une feignasse, que tu ne te stimules jamais? Vous savez quoi? Je me suis dit peut-être. Honnêtement, peut-être. Parce que je me suis dit, ouais, mais si on est tous comme ça dans la planète, il n'y a personne qui fait des grandes choses. Eh bien si. Le truc dont on ne se rend pas compte, c'est que les grandes choses... C'est pas, encore une fois, un film nommé au César. C'est pas l'invention d'un nouveau gadget qui va révolutionner la planète. Non, non, non. Les grandes choses, c'est se satisfaire des petites que l'on a tous les jours et qui vont nous permettre, les unes à coller aux autres, d'en faire encore plus, d'en emmagasiner encore plus. Quand je dis en faire encore plus, encore une fois, c'est pas dans le sens en faire toujours plus en termes de productivité, mais c'est en apprécier. En remarquer plus qu'on ne le remarque, qu'on apprécie déjà. Et du coup, quand vous saisissez les choses, littéralement de manière brute comme elles sont, je vous assure que vous vivez plus, étrangement. vous vivez plus dans le sens où vous vous épanouissez plus. Moi, pour moi, l'appart, je reviens à cette comparaison, c'était qu'un appart. Un salon, c'était que mon salon. C'était l'endroit où je me posais le soir un peu, où je mangeais. Mais depuis que je me suis dit, ben voilà, mon salon, je vais m'y poser, je vais essayer de comprendre mon salon, genre de le comprendre dans l'espace, vous voyez, que j'y occupe. C'est une notion qui est très importante, hein, l'espace, son rapport au corps, enfin, son rapport à l'espace et notre corps et tout. Et maintenant, mon salon, c'est plus qu'un salon. Mon salon, genre, j'ai l'impression que je peux y faire mille et une choses. Et du coup, j'y fais mille et une choses. J'y mange, j'y cuisine, j'y reçois mes amis, j'y ai des grandes discussions, j'y ai des moments de méditation, j'ai des moments où j'y dors pour faire une petite sieste, j'ai des moments où j'y lis, j'ai des moments où j'y crée, j'ai des moments où rien. Littéralement, j'ai des moments où j'y fais rien, j'ai des moments où je n'y suis pas. J'ai des moments où je passe en courant parce qu'il faut pas que je loupe mon bus et oh, ça me fait rire parce que le soleil il réfléchit comme ça sur le mur ou la pluie, oh tiens, elle tombe de cette manière sur la fenêtre, c'est rigolo. Je l'avais pas vu. Et c'est en ça que je vis et que j'y fais beaucoup plus de choses. Parce que j'ai pris le temps de le regarder, de l'analyser, encore une fois dans mes sens bruts, de chercher à y occuper l'espace de manière différente, de manière plus prononcée. Et c'est en ça que maintenant mon salon, c'est une de mes pièces préférées en fait de mon appart. J'y suis la majeure partie de mon temps. Parce que j'ai l'impression que je le redécouvre tous les jours. Parce que tous les jours je suis quelqu'un de... pas de différent, mais quelqu'un qui avance dans ma construction, dans mon chemin de vie. Et ça, c'est interne, en fait. J'avance parce que je vis, et j'avance pas parce que j'ai fait mille et une choses. Vous voyez, par exemple, si on parle en termes de travail, de création, alors, il y a une création que je fais en interne, mais en termes de vidéos, j'ai jamais aussi peu sorti de vidéos sur ma chaîne YouTube. Et pour autant, je n'ai jamais été aussi stimulée qu'à l'heure actuelle. Ne pas rater sa vie, être épanouie, c'est embrasser ce changement qui s'opère en nous tous les jours. Par rapport à l'environnement qui nous entoure, qui nous berce, qui nous accompagne quotidiennement. Et je voudrais dire en fin de ce podcast que vous pouvez être une grande personne et avant tout pour vous-même sans avoir fait de grandes choses. Et que vous pouvez être une très petite personne pour vous-même en vous étant rendu malheureux de ne pas avoir réussi à faire des choses qui dépassaient toujours celles que vous étiez pourtant en train de faire et que vous n'avez jamais su apprécier à leur juste valeur. Alors prenez le temps, remettez peut-être en question certains idéaux que vous avez dans votre conception du bonheur, dans votre conception de « du coup je n'ai pas raté ma vie », parce que c'est peut-être celles qui sont en train de vous perdre. Et ça ne veut pas dire baisser vos standards de vie, ça ne veut pas dire subir la vie, ça veut juste dire prendre le temps d'apprécier ce qu'elle est, au lieu de fantasmer sur ce qu'elle pourrait être ou sur ce qu'elle n'est pas. J'espère que ce podcast vous a plu, vous a aidé. Et les potes, je vous jure, on est simples ensemble et c'est ça qui fait qu'on est si beau. Parce qu'on est vrai, parce qu'on est authentique. Et parce qu'on se fait du bien les uns aux autres, mais surtout de nous à nous-mêmes. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode et je vous fais de gros bisous. Ciao.